Renaud.
Alors, je vous le présente en un mot. Il est conférencier et formateur à l'Institut Louis Even. L'Institut Louis Even existe depuis 100 ans et promeut la souveraineté monétaire du peuple.
Bonjour tout le monde. Je suis un peu intimidé de me retrouver ici. J'ai l'impression que je suis obligé de me révéler comme un passager clandestin. Et donc, en ce qui me concerne, je suis français, j'ai une carrière très ordinaire, très banale. J'ai été technico-commercial dans le second petit bâtiment. J'ai côtoyé toute ma vie les PME, PMI, différentes industries. Et j'ai appris l'économie par les soutes et par l'usage le plus concret, le plus productif qui peut exister. Donc, en quelques minutes... Je voudrais résoudre la quadrature du cercle, mais c'est guère possible. Et la première question que je voudrais poser, dans le cadre de la monnaie pleine, évidemment, est d'abord citer le fait que l'homo economicus n'a jamais existé en dehors des manuels d'économie, et par la question qui dit « Qui ou quoi donne sa valeur à la monnaie ?» D'après vous, qui donne sa valeur à la monnaie quand je sors ma carte bancaire ou que je donne un petit papier pour acheter telle chose? Qu'est-ce qui donne la valeur au moyen d'échange que j'utilise? Eh bien,
confiance.
Ce sont les capacités de production.
C'est
les capacités de production de l'espace économique dans lequel est utilisée la monnaie. Voilà. C'est ça. Alors, mon propos est de recentrer la question monétaire, dont la monnaie pleine est un élément essentiel, sur les producteurs. Parce que sans les producteurs, on est strictement rien. On peut citer l'exemple, hein, je suis naufragé au pôle Nord, si j'ai un sac d'or dans ma poche, c'est plutôt gênant qu'autre chose. Si je suis naufragé au sein du Sahara... les dollars que j'ai dans ma poche, c'est rien du tout, c'est surtout de l'eau dont je nécessite. Bon, ça c'est une caricature, mais les producteurs sont en amont de la monnaie. Ils sont en amont de la monnaie, comme la question monétaire, la question des échanges économiques est une question organique et non pas politique. C'est pour ça qu'on se chipote avec la droite et la gauche, et beaucoup de choses ont été dites ce matin qui est tout à fait... Je crains de répéter en moins bon tout ce qui a été dit ce matin sur cette question, parce que les producteurs sont premiers, et ça on l'a complètement oublié, le système financier vole de ses propres ailes, et les producteurs sont là, un élément économique parmi les autres, je pense à la désindustrialisation, la délocalisation, etc., parce que justement la globalisation de l'économie fait que la finance décide de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, au lieu que ce soit la société productrice. Et c'est la société productrice de se fédérer et de décider ce qu'il faut faire, et non pas le système financier qui, lui, est au service de la société, et non pas l'inverse. Donc, la monnaie pleine est le premier palier essentiel de la reconnaissance des producteurs de biens et de services, parce que la monnaie déjà existante, elle a son visa de production. C'est une monnaie qui vient du travail et de la production qui a été faite, et non pas sortie du néant comme maintenant. Donc c'est le travail de production qui compte, mais quel que soit ce travail, ça peut être le travail le plus du simple agriculteur, du balayeur, comme de l'ingénieur le plus inspiré pour inventer des nouveaux processus. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vais donc tenter un éclaircissement. C'est que pour qu'il n'y ait pas coexistence de production et de sous-consommation, il faut que le revenu national ou tout espace économique équivalent puisse acheter la production nationale ou tout espace économique équivalent, donc lui soit égal, quelles que soient les importations et les exportations, parce que la mondialisation vient s'interposer dans la problématique monétaire, elle vient tout compliquer, alors que tout c'est exactement la même problématique, que ce soit d'un village ou du monde. Donc il faut se débarrasser des interférences et des échelles pour bien se concentrer sur le sujet principal. Alors, Madame Magritte Kennedy, donc aucun rapport avec la famille américaine célèbre, est une architecte allemande très avancée en économie. Durant les années 90, elle a fait la même enquête que le Major Douglas. Le Major Douglas est un contemporain de Keynes qui a d'ailleurs d'abord expérimenté le crédit, ce qu'on appelle le crédit social, et ce qu'il faut appeler la démocratie économique. La démocratie économique est beaucoup plus juste que le crédit social qui peut faire croire à différentes publicités ou des choses comme ça. Et donc il a découvert expérimentalement, par les enquêtes qu'il a faites sur le terrain de l'industrie et de la formation des prix dans l'industrie, ce qu'on appelle le crédit social et qui peut déboucher sur la démocratie économique. Donc, Madame Kennedy a fait la même découverte 75 ans après le Major Douglas. Une énorme proportion, enfin une proportion très importante, des prix que nous payons au quotidien ne couvrent pas non seulement les coûts de production, mais aussi la rémunération du capital, pour parler rapidement. Ce qui fait que, je crois que c'est assez simple à comprendre, le calendrier des remboursements de l'argent d'investissement ne tient pas compte du revenu des consommateurs. Ce calendrier est un peu un rouleau compresseur qui exige quelque chose qu'on doit transformer dans les prix d'achat et que tout le monde doit se débrouiller pour payer les prix. Pardon, je me suis trompé. Le rouleau compresseur est. Fait qu'on doit se débrouiller avec les prix de vente et non pas les prix d'achat. C'est ça le sujet. Et quelles que soient les conséquences. Alors, puisque les revenus des producteurs, des travailleurs, toutes tendances confondues, libérales, salariés, etc., ne couvrent pas les coûts de production. Donc, les gens les plus nombreux, ceux qui produisent, ceux qui doivent travailler, ne peuvent pas acheter 100% de la production qu'ils font. Ce n'est pas possible. Donc il y a un déséquilibre très important, puisqu'il faut couvrir les coûts de production qui sont très légitimes, parce que dans la chaîne de production, depuis l'extraction, le raffinage, le transport, les différents sous-traitants, il y a toute une chaîne de production qui débouche sur la finition du produit, et toutes ces entreprises, au passage, ça existe dans le système d'aujourd'hui, chacune paye ses clients et ses fournisseurs avec les marges bénéficiaires et tout est en ordre. Mais il se trouve quand même que au final, le total ne correspond jamais à tout l'ensemble du système, c'est-à-dire du système d'investissement. Il y a donc, pour éclaircir ce que je voudrais faire passer, c'est que voilà, pour qu'il n'y ait pas de coexistence de surproduction et de sous-consommation, il faut que le revenu national ou d'un espace économique donné soit égal, il faut que les revenus de cet espace soient égaux à la production, il faut qu'il y ait une égalité qui n'existe pas. Alors, le mieux compris possible. Tout prix comporte deux parties, l'une de travail ou de capital, on appellera la partie A, c'est-à-dire les salaires personnels directs ou indirects pour la consommation des personnes. Et l'autre, la partie B, c'est donc la rémunération des capitaux engagés. Ce sont des capitaux d'argent négatif ou d'argent dette qui se rapporte à 95% des échanges, puisque la monnaie légale servant aux échanges représente plus ou moins 5%. Donc, si les producteurs touchent un total qui est compris dans la partie A, c'est-à-dire l'argent de consommation, les salaires, les revenus, etc., ils ne peuvent en aucune façon acheter la partie A plus la partie B. La partie B, qui demande son remboursement, qui demande sa rémunération, va être obligé d'exercer une violence qui ne dit pas son nom pour que le système fonctionne bien. Donc le revenu national ou de l'espace considéré sera toujours inférieur à la production nationale ou de l'espace considéré. Il y aura toujours des surplus et les consommateurs seront toujours en état de sous-consommation. Telle est l'origine du phénomène de surabondance-misère qu'aucun dirigisme ne peut réduire. Et il se trouve que, jusqu'à la date d'aujourd'hui, sauf erreur, la fausseté du théorème A plus B du major de classe n'a jamais pu être démontrée fausse. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer en pensant que toute production doit être couverte par une émission monétaire qui lui soit égale et qui, contrairement aux détracteurs de ce qu'on appelle le crédit social ou la démocratie économique, ne crée pas d'inflation. Parce que si on émet de la monnaie pour écouler une marchandise qui est déjà produite, donc il n'y a plus aucun risque, puisqu'il y a une égalité entre la valeur de la marchandise à produire, enfin qui est produite, mais pas à produire, hein, qui est produite, et l'émission monétaire correspondante. Donc ça, il y a un équilibre à rechercher, d'urgence, mais ça, la monnaie pleine est un élément absolument décisif dans cette question, parce que ça soustrait les banques de leur caprice de la politique monétaire, et ces banques, comme des coquettes, décident de faire des booms financiers ou des crises, selon comment ça arrange, ça les arrange elles, et quand on dit ça arrange les banques, ça arrange les actionnaires, évidemment. Donc il faut absolument qu'il y ait cette égalité entre les revenus et les prix de vente, et il y aura déjà une pacification tout à fait extraordinaire qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant, parce que justement, ceux qui produisent n'ont pas les revenus nécessaires. Alors bien entendu, un ouvrier non spécialisé touchera moins qu'un ingénieur hautement spécialisé, ça bien entendu. Mais ça, c'est un problème différent. C'est un problème différent qu'on peut retrouver. Parce que comme le disait ce matin, je crois, Gérard Fouché, bon, il y a très peu de choses à changer dans le système financier, mais il y a deux ou trois choses essentielles qu'il a parfaitement bien rappelées. Et si ces changements peuvent avoir lieu, bon, ben, on ne va pas atteindre le paradis, parce que tout le monde peut faire des erreurs, il peut y avoir des fois des irrégularités et autres, mais enfin, il y aura quand même un progrès absolument décisif et considérable. Ça, c'est tout le monde, je crois que l'essentiel des présents ici l'ont compris. C'est ça qui est... Donc c'est surtout ça, c'est cette question de la production et de l'argent qui s'y rapporte. Parce que dans une comptabilité générale, vous avez la colonne « doit » et la colonne « avoir ». Et les deux doivent s'égaliser. Mais avec le système de production, de création monétaire ex nihilo, à partir du néant, il va falloir rembourser, c'est-à-dire, comme le disait Gérard Fouché, oui, avec les jetons, il va falloir rembourser les intérêts sur ces jetons qui vont fausser toute la mécanique. Alors au début, on s'en aperçoit pas, mais après, alors, c'est épouvantable parce qu'on s'en aperçoit d'une façon très cruelle. Et ça met les sociétés au pied du mur. Faut-il faire la révolution? Faut-il faire la guerre? Et on est encore dans ces questions, dans un monde où il y a des zones de la planète hyper développées qui ont des possibilités absolument phénoménales et d'autres qui sont à la traîne. Mais c'est pas tellement ça dont il faut parler, parce que chacun a des moyens chez lui, ou dans une zone un peu plus importante, de se sortir de la gêne et de la pauvreté due à un système artificiel qu'est le système monétaire. Et ça, c'est donc... Si ce message de reconnaissance que les revenus, d'une manière ou d'une autre, puissent égaliser les coûts de production, mais... sans aucun dérapage financier, selon les critères les plus naturels de la production, et non pas selon les critères des banques et des produits dérivés et de toutes les autres sottises qu'on veut nous faire ingurgiter, eh bien, ça sera un progrès absolument considérable.
On arrive gentiment au terme de cette intervention. Je ne sais pas si Renaud veut ajouter un petit mot de conclusion.
Oui, alors, voilà. J'appartiens, disons, à l'Association des Pèlerins de Saint-Michel, dont le siège est au Canada, François Dubiental et moi, nous rencontrons deux fois par an, environ, par an, là-bas. Et bon, cette association est à l'origine de tout ce qui est recherche sur l'injustice de l'argent. Ils sont les premiers au monde, vraiment les tout premiers, depuis les années 30, à avoir étudié les systèmes monétaires. Et il faut citer un homme qui s'appelle Louis Even. Et je recommande absolument à tous, quelles que soient leurs obédiences philosophiques, religieuses ou autres, de lire Louis Even, parce qu'il a visité entièrement, à mon avis, et pas seulement à mon avis, hein, c'est bien orgueilleux de dire ça, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, il a visité tous les coins et recoins du pourquoi de la monnaie. Bon, les compétences financières, elles existent. Elles ont autant besoin de vérité et d'appliquer la vérité que n'importe qui d'autre. Donc elles sont tout à fait capables de mettre au point un système qui ressemble à ce qu'on appelle la démocratie économique. Parce que la démocratie politique, c'est bien gentil. Hein, que signifie la démocratie politique si on est toute sa vie dans la gêne, à moitié dans le chômage, dans l'incertitude du lendemain? Ça n'a aucune signification. Donc l'important, c'est la démocratie économique qui est en amont de la démocratie politique. Alors après, oui, on peut payer la démocratie politique. Mais si on fait l'inverse, on se paye la démocratie politique qui généralement est très très bien vue par les milieux financiers, eh bien ça peut durer longtemps comme ça, hein, je vous assure. Hein. Ça, je suis certain que c'est bien compris comme ça ici. Donc, la démocratie, c'est quelque chose de très important, très louable, très, très agréable, mais qu'elle passe d'abord par la réalité de l'économie, de la production, quelles qu'en soient les formes, quelles qu'en soient les... Et que la monnaie se soit conçue. Et il y a plein de compétences qui seraient tout à fait d'accord pour y travailler et qui le font déjà un peu, pour que la monnaie soit une monnaie en rapport avec la production et non pas en rapport avec les actionnaires. Parce que, vous savez, l'actionnariat, personne ne s'étonne de l'actionnariat, de toucher de l'argent quand on a placé de l'argent. Mais j'ai des statistiques un petit peu anciennes, ce qui date de 2007. Et elles viennent du banquier Jean Perlevade. Il y avait environ 300 millions d'actionnaires dans le monde, dont la moitié sont des citoyens des États-Unis. La deuxième moitié, 150 millions, sont répartis dans les autres pays riches et le dernier quart dans tout le monde entier. Bon, ça représente environ, comme ça rapidement, un actionnaire sur 24 ou 25 habitants de la Terre. Bon. Les 24 ou 25 habitants moins 1, ça fait, mettons, 23 habitants. Enlevons les enfants, les familles, les vieux, les vieillards, les incapables, etc., etc., etc. On va tomber sur 15 personnes, à peu près. 15 personnes qui rament et qui travaillent pour produire ce dont nous avons besoin pour vivre. Et survivre, d'abord survivre, et ensuite vivre. Bon, il reste cette partie-là. Alors, la réponse du berger à la bergère qu'on fait souvent aux tenants du crédit social, mais d'accord, il faut bien que tout le monde vive et les consommateurs dépensent leur argent, mais les gens très riches aussi. Mais les gens très riches, eux, ils sont exactement dans la même situation. Mais par contre, souvent, leur fortune, que je ne critique pas, dépasse très 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 largement leurs besoins. Hein, on ne va pas manger 10 fois par jour, on ne va pas avoir 10 maisons huppées dans les endroits les plus chers, etc. Ça, c'est autre chose. Si ça existe comme ça et que ça gêne personne, c'est très bien. Mais par contre, il faut absolument que le reste, les 15 personnes qui, elles, travaillent, sont soumises au chômage, sont soumises à la délocalisation, sont soumises à toutes sortes de vicissitudes, s'ils avaient les revenus qui correspondent à ce qu'ils font, mais ça serait un pactole extraordinaire. Parce que, imaginez un peu, on dit que on fait d'énormes gains de productivité, et j'ai compris sur le tard que c'est ceux qui font ces gains de productivité se foutent complètement qu'il y ait de plus en plus de chômage, mais ils ne se rendent pas compte qu'ici est la branche sur laquelle il est assis, parce que beaucoup de chômeurs, ben, ce n'est pas beaucoup de clients solvables. Donc l'important, c'est d'avoir des clients solvables, et qui payent quelle que soit la modalité, et ça peut être une...
Mais devoir malheureusement...
Un développement extraordinaire. Non,
vous interrompre, parce que là, il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent prendre la parole.
Je ne suis pas habitué à parler devant, disons, un panel de gens de pointure financière très, très élevée, donc je n'ai pas le brio ou l'habileté, mais enfin, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu faire passer. Merci à vous.
Merci beaucoup, René-Olivier. Je vais demander maintenant à Claude Raymond, qui nous a rejoint, qui est secrétaire syndical à la CGAS, Communauté Genevoise d'Action Syndicale, de nous donner son avis sur la question.
Bonjour. Donc, je suis Claude Raymond, secrétaire auprès de la Communauté Genevoise d'Action Syndicale, membre de la Conférence des Unions Syndicales Cantonales de Suisse et leur représentant auprès du comité de l'Union Syndicale Suisse depuis 2005. Alors, de métier typographe, j'ai travaillé à la Tribune de Genève pendant 20 ans. Membre de la sous-commission ouvrière, j'en fus le secrétaire puis le président. En 1973, cette imprimerie comptait 1040 salariés, aujourd'hui moins d'une centaine. Je suis devenu syndicaliste professionnel en 1991 dans le centre de liaison du mouvement syndical genevois, dont le secrétariat coordonne les activités des 21 organisations sur ce territoire, ses 38 000 affiliés. Et on assure également les contacts au niveau suisse avec l'Ain, la Haute-Savoie et la Vallée d'Ost. C'est le 2 juillet 2014 que le comité de l'Union syndicale suisse s'est prononcé défavorablement sur l'initiative Monnaie pleine. Le rapport qui a été produit ne l'était qu'en allemand et avec le soutien de Christophe Meyer, il est là. Non. Nous avons entrepris de l'analyser et d'en faire la critique. 8 pages systématiques contre l'économiste principal de l'USS, que je nomme pas Daniel Lompart. Donc, j'ai fait distribuer ce document aux 33 membres du comité de l'USS et j'ai demandé une prolongation d'une heure de l'usage de l'installation technique de traduction de l'Assemblée des délégués du 25 mai 2015 afin de permettre aux initiants de venir présenter les mécanismes de leur initiative. Une seule voix s'est exprimée en faveur de cette proposition, la mienne. 3 ans plus tard, s'agissant d'accepter la réforme prévoyance vieillesse 2020, nous ne fûmes que 2 à voter contre. Là encore, j'étais dans le paquet. Alors ceci, c'est pour vous permettre de comprendre que je suis parfois extrêmement minoritaire sur les positions que je porte, en tout cas certaines, et que je ne représente pas vraiment l'opinion des chefs syndicalistes. Mais étant membre de la section genevoise de Syndicom, j'ai pas eu beaucoup de difficultés il y a quelques années de convaincre son comité pour participer à la récolte de signatures en faveur de Monnaie pleine, ni d'encourager son assemblée générale début avril de soutenir l'initiative. Donc cette organisation mène campagne, il y aura une centaine d'affiches dans les rues de Genève, des tracts distribués, ceci, cela. Donc, au principal. Alors, déjà au début de l'esclavage, on avait compris que l'argent permettait d'échanger le travail de chacun contre celui de tous. L'introduction de la monnaie pour remplacer le troc fut donc un immense progrès. Depuis l'avènement de l'industrialisation, avec une accumulation du capital mort qui domine le capital vivant, on observa que l'argent acquérait une seconde nature, celle du capital. Ça a été abordé tout à l'heure. Je ne vais pas m'exprimer sur la répartition des richesses. Ce n'est pas le sujet de notre initiative. Mais celles et ceux qui ne possèdent rien, ou qui n'ont que leurs bras ou leur intelligence à vendre, ont depuis longtemps lutté pour imposer un cadre au mouvement du capital et à ses exactions les plus violentes. De récentes votations populaires ont montré qu'une partie importante des citoyens souhaitait renforcer la régulation du marché des affaires et limiter la faculté de certains à spéculer au risque de ruiner l'équilibre du type d'économie que nous connaissons actuellement. Je suis à la moitié. Les mécanismes de l'initiative Monnaie pleine sont simples, mais pour susciter l'adhésion à ce projet, il faut combattre beaucoup de préjugés et des fadaises. Cependant, la tâche n'est pas impossible, et chacun dans notre milieu, nous avons pu, en 10 ou 15 minutes, amener nos interlocuteurs à s'interroger sur leur place dans la société et sur ce qu'ils attendent d'elle. Et Monnaie pleine répond, c'est la sécurité. Pendant longtemps, l'offre de la loi et de la demande a réglé la répartition des biens, et cette loi a permis la survie des plus forts. Mais après la période de production épisodique de surplus, donc là, c'est féodalité, début de, l'industrialisation, qui ne protégeait pas des famines, parce que les surplus étaient épisodiques, eh bien maintenant est venue la période des surplus systématiques. Toutefois, pour maintenir le système, il faut maintenir la rareté. Et donc, tous les jours, on jette des aliments et on détruit notre environnement. Je n'ai pas rencontré tous les 1200 abris qui vivent à Genève, ni les 18 000 personnes qui sont à l'assistance publique, ni les 7 000 chômeurs inscrits et touchant des prestations. Tous ces humains-là se trouvent présentement exclus de l'aisance. Mais j'ai pu vérifier depuis plusieurs mois que les petites gens sont très souvent bien plus sages que d'autres sortant des hautes écoles. Elles comprennent intuitivement qu'à l'heure de l'électronique et de la communication instantanée, il n'est pas normal qu'il faille 3 à 4 jours à une banque pour effectuer le paiement ordonné. Maintenant, avec notre campagne, elles savent, ces personnes, que cette période est nécessaire pour mettre à jour des écritures et non pas pour transférer du vrai argent. Et la notion de bien commun bourgeonne, c'est d'ailleurs une des affiches quand on arrive par ici. Et les personnes savent, non, et je pense que cette notion de bien commun qui bourgeonne va avoir un éclat qui ne tardera pas à éteindre certaines représentations égoïstes et tyranniques de réussite sociale. Donc le postulat démocratique de restreindre la capacité de gérer la monnaie électronique à la seule banque nationale est généreux. Les valeurs réelles passées seront garanties par les nouvelles, et l'on jugulera les appétences de trop nombreux actionnaires anonymes, comme on en a parlé tout à l'heure. Monnaie pleine peut contraindre les prédateurs à ne se nourrir que de leurs congénères. Aussi, je lui souhaite le meilleur succès.
Merci beaucoup, Claude Raymond. Je vous invite au passage à aller visiter, bon, pas maintenant, parce qu'on est ici, mais l'exposition des affiches. Il y a 35 affiches sur la monnaie. Et à exprimer votre vote par rapport à l'affiche que vous préférez tout à l'heure, à l'interlude, à 18h30, par exemple. Je vais insérer mon ami Narcisse Niklas, qui est là, qui a écrit un article dans ce magazine, Hero Magazine, c'est la revue de l'invention et de l'innovation en Romandie.
Oui, bonjour, je vais faire diversion parce que d'une part, j'arrive comme ça, comme une fleur, et ensuite, je ne suis pas un spécialiste de la monnaie, mais je m'intéresse à tout ce qui touche à l'innovation et l'invention. C'est pourquoi je suis là. Je vais complètement dans le désordre parce que d'habitude, pour prendre la parole en public, je prends une bière, je ne l'ai pas eue, alors il y aura peut-être des petits écarts. Monnaie pleine a démarré il y a plus de 10 ans à Zurich, au cœur du monde de la finance, avec des gens qui venaient d'un monde intellectuel. Ensuite, ils ont constitué un comité sur Zurich et ils avaient donné la parole à un monsieur qui s'appelle Hervé Dubois, que vous pouvez voir dans le film « Demain », où il parle de la banque vire. Il faut savoir qu'entre le moment où Hervé Dubois a pris la parole et aujourd'hui, la banque vire a totalement viré, sans faire de jeu de mots. Si vous allez ouvrir un compte à la banque vire aujourd'hui, vous avez le même bordel que dans toutes les autres banques avec les papiers américains. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors qu'au départ, c'était une idée coopérative qui a sauvé des artisans de la crise et ils se sont basés pour inventer la banque vire sur les écrits de Silvio Gesell qui vivait dans le canton de Neuchâtel, qui n'était pas encore le canton de Neuchâtel, je crois que ça appartenait encore à la Prusse. Mais enfin voilà, l'idée est née pas bien loin d'ici et c'est lui qui a donné naissance à tout ce concept, qu'on voudrait dire, de monnaie pleine. Et il y a 6 ans, un groupe d'Alémaniques sont venus jusque chez moi parce que j'habite proche de Fribourg pour trouver un relais en Suisse romande. Et j'ai réuni des gens qui venaient entre La Chaux-de-Fonds, Lausanne, etc. On a eu une nuit assez longue. Et c'est là que s'est constitué le petit noyau roman pour être le relais de Monnaie pleine. Alors, c'est un miracle parce qu'en fait, j'habite à Nierlet-les-Bois. personne ne sait à peu près où c'est. C'est au bout du bitume, au bout de la ligne électrique, au bout de l'eau et naturellement au bord d'une forêt. Et si des gens qui passent à peu près les trois quarts d'une nuit à discuter réussissent à lancer un mouvement et à créer une étincelle, c'est bon signe. Aujourd'hui, vous êtes plus que le nombre de gens qu'on était. Et environ, je n'ai pas la notion du temps, parce que si vous allez sur YouTube et que vous cherchez CNN Narcisse Niklas, vous verrez que je suis un avatar. Donc, je ne suis pas moi en personne ici. Vous verrez ça. Je ne déconne pas. Donc, vous arriverez à cette conclusion. Donc, YouTube, CNN, Narcisse Niklas. Et par la suite, des gens de cette première réunion ont continué à se rencontrer. Et un 31 janvier, sauf erreur, il y a une équipe qui n'était pas encore AAA, qui a débarqué nouveau à Nierlet-les-Bois. On a passé, là, je crois que c'était un dimanche ensemble. Et à la fin, ils ont décidé de faire AAA. Et ensuite, le plus, c'est ma femme qui l'a ajouté le lendemain entre elle et Blaise Rosla, qui est pour dire positif, mais en même temps un petit clin d'œil à la Croix Suisse. Donc ça veut dire que dans un endroit paumé, perdu, il peut se passer des choses qui continuent. Et cette année, alors mon plaisir a été d'amener AA+, avec Monnaie Pleine, au Salon de l'Invention à Genève. Je fais un petit coup de pub pour le salon, c'est le plus important au monde. Pas le plus ancien, pas le plus grand, le plus important. Normalement, les mouvements politiques n'ont rien à faire au salon. Et le salon est sous le patronage de la Confédération helvétique, la République et canton de Genève, la ville de Genève, donc la totale. Et ensuite, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et j'ai amené Monnaie Pleine. Ça n'a pas été facile pendant un certain temps. Il y avait des résistances. Et avec le concept de l'innovation sociale. Donc, c'est quand même ce qu'on est en train de faire. C'est une innovation sociale. Et je bénéficie d'un statut un peu particulier au Salon des Inventions parce que je suis ami avec le fondateur, Jean-Luc Vincent, et j'y participe depuis 30 ans. Donc, j'ai une certaine latitude, une liberté pour faire des choses non conventionnelles. Mais après, lors des débriefings, j'ai du retour. Et là, je n'ai eu aucune remarque négative. On ne m'a pas dit, mais tu nous as enfumé, qu'est-ce que tu nous as amené, etc. Et il y a eu un moment très sympathique. Pour la première fois en 46 ans de Salon des Inventions, un conseiller fédéral s'est déplacé pour inaugurer le salon. C'est un Tessinois, Ignacio Cassis. Il est venu. Pour qu'il vienne, le travail avait commencé en amont avec ce fabuleux magazine Hero Magazine qu'il avait reçu au mois d'octobre l'année d'avant. Alors prenez-le en partant. Et quand il est venu sur le salon sur le stand de Monnaie Pleine, il s'est passé un incident dont les gens qui sont sur le stand, un incident heureux, David en parlera mieux que moi, vient peut-être expliquer parce que c'est lui qui l'a vécu. Donc ça veut dire qu'il y a des miracles. Pour terminer, Monnaie Pleine, une initiative suisse dont on reparlera. Il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point. Je suis peut-être un peu négatif, je ne suis pas sûr que ça va passer, mais on en reparlera. Et M. Sergio Rossi, dont je prends trois bonnes idées là-dedans, si on arrive déjà à faire ce qu'il dit, il y aura un début de solution et tout notre travail et notre engagement n'aura pas été inutile. Alors prenez cette revue en partant. On en a encore 5000 exemplaires en stock. Merci. Et là, le petit incident bien raconté, parce que c'est intéressant. Bravo.
Donc, Ignacio Cassis, passant devant le stand, je l'interpelle. Et il lit exactement cette phrase. Qui doit créer notre argent? Sa réponse était la suivante.
Moi!
Je remercie M. Cassis pour cette réponse franche, honnête et constitutionnellement véridique.
Merci. Alors j'aimerais donner la parole maintenant à Philippe Boursier de Carbon, qui a préfacé le livre que j'ai dans la main, ici, Le Nouvel Esprit des Lois et de la Monnaie, qui est entre autres fondateur de l'EIRAMA, A-I-R-A-M-A, je le laisserai détailler l'acronyme, chercheur à l'INED, Institut National d'Études Démographiques, voilà, je ne me trompe pas, docteur statisticien, économiste et disciple de Maurice Allais, le prix Nobel d'économie 1988. Et Maurice Allais aurait voté certainement oui à l'initiative Monnaie Pleine. Je vais vous lire juste une petite phrase qui est de son cru et que je trouve qui représente bien La création monétaire des banques, justement. Je vais vous lire ça. Donc, par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire, pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, si justement réprimés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Je vous laisse avec Philippe.
Ça pour avancer, ça pour reculer.
D'accord. À droite, il faut avancer. Bon. Bonjour, merci beaucoup. Je suis venu ici, malheureusement, je n'ai, pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu préparer le PowerPoint que j'avais préparé, enfin que je pensais préparer. Mais néanmoins, je voudrais vous parler un petit peu de démographie, puisque mon ami François m'a demandé de vous en faire une présentation, et je voudrais vous donner à ce propos des principes qui sont non conventionnels d'attitude d'observation de ces choses-là. Premièrement, pour introduire le sujet, je ne vais pas être trop long, je sais que le temps est limité, je dirais la chose suivante, les rapports entre la démographie, l'économie, la finance et la politique sont à comparer avec les rapports qu'il y a entre la houle marine, le bateau et la passerelle. Les ordres de grandeur de l'unité de temps sont très différents. Pour la passerelle, c'est-à-dire la finance et la politique, c'est-à-dire qui gouverne le bateau, c'est très peu de temps, c'est quelques années, minimum, au maximum, 1 ou 2 ans, les échéances électorales, etc., etc. Pour l'économie, c'est la maturation des investissements, c'est en moyenne 7 ans. Pour la démographie, c'est la génération, 30 ans. Donc déjà, tout cela structure l'histoire. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on vous habitue à parler de population, on vous donne des chiffres bruts. La Chine a 1 150 300 000 d'habitants, bientôt rejointe par l'Inde, etc. Ces chiffres sont importants, mais ils ne veulent rien dire. Leur information est très pauvre. Très pauvre. Quant à un fonctionnement de ces sociétés. Pourquoi ? Parce que ce qui conditionne le fonctionnement d'une société, ce n'est pas le montant, le nombre global des habitants, c'est leur structure principale. Et les structures des sociétés humaines sont structurées par les sexes, bien sûr, bon, il y a toujours à peu près une égalité homme-femme, enfin, et surtout l'âge, c'est-à-dire les générations. Depuis que l'humanité existe, elle a été essentiellement agricole, donc depuis des milliers, des millénaires, les populations, statistiquement parlant, étaient représentées par la génération des parents et des enfants. Bien sûr, il y avait les générations qui avaient dépassé les âges de fécondité, c'est-à-dire les grands-parents, qui coexistaient, mais ils étaient statistiquement peu importants. Donc ce sont... Ce qui résume cet état de choses, c'est la pyramide démographique. Donc, quand on vous parle de population, tout de suite, cherchez la pyramide démographique. Or, je vous demande de bien l'observer. Dans les médias d'aujourd'hui, on va vous parler de population, à l'occasion de démographie. On va vous montrer des tas de schémas. Et jamais les pyramides démographiques. C'est l'information la plus importante. Alors, le deuxième point, donc, que ceci soit bien clair, le deuxième point, c'est que, bien entendu, j'ai l'air de dire de truisme, et encore faut-il les avoir présents à l'esprit pour ne pas être diverti. Le deuxième point, c'est que le renouvellement, l'avenir des populations, il ne dépend pas de la population en tant que telle. Il dépend du nombre des femmes en âge de fécondité. c'est-à-dire en âge de fécondité biologique, c'est encore le cas, c'est-à-dire de 15 à 50 ans, disons, pour être très grossier. 15 à 50 ans. Donc, si vous considérez qu'il n'y avait plus de personnes de moins de 50 ans sur Terre, ben l'humanité disparaîtrait, quel que soit son chiffre. On en chiffre aujourd'hui à 7 milliards d'habitants. Il disparaîtrait très vite. Ben, il faut quand même en être conscient de cela. Donc la structure est très importante et le renouvellement ne dépend que des femmes de 15 à 45 ans. Et dans nos sociétés développées, donc urbanisées, etc., intégrées dans une économie mondiale, l'âge à la maternité, pour des tas de raisons, je ne vais pas décliner, mais vous le connaissez comme moi, ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, en France comme en Suisse, l'âge moyen à la maternité approche les 30 ans, on n'a jamais vu. Et donc, le moteur dont dépend, réellement démographique, dont dépend le renouvellement, le remplacement de ces populations, se rétrécit. Ce n'est plus l'intervalle biologique 15-50 ans, mais c'est en pratique, si on prend les statistiques françaises, 90% des mères ont entre 25 et 45 ans. Donc c'est 20 années. Donc on voit que le moteur s'est réduit. Alors, les populations, leur avenir, puisqu'il s'agit de ça, dépendent du fait que ces jeunes femmes puissent répondre à la question « aurais-je un enfant dans l'année ?» Les jeunes femmes, statistiquement, entre 25 et 45 ans, dans les sociétés développées. Aurais-je un enfant ? De quoi dépend la réponse à cette question ? Mais on le sait depuis très longtemps. Il y avait des enquêtes de l'INED qui ont été supprimées depuis longtemps sur les intentions, les raisons où on demandait aux jeunes femmes combien voulez-vous avoir d'enfants et après on allait les revoir 2 ou 3 ans plus tard, pourquoi ne les avez-vous pas eu ? C'est toujours la même réponse. Dans ma situation, je ne le pouvais pas. Je l'aurais bien voulu, mais je ne le pouvais pas. Donc c'est une question de perception. Ça veut dire que les jeunes femmes vont prendre leur décision, oui ou non, selon qu'elles se perçoivent un avenir dans leur société, un avenir qu'elles peuvent construire ou pas. C'est très simple. Je ne vais pas être trop long parce que je pourrais m'embarquer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
Pourra continuer éventuellement de 20h à 22h. On a plein de discussions.
J'ai encore combien de temps ?
Normalement, c'est fini. Mais bon, allez, on vous accorde 2 minutes. Le lien avec Monnaie Pleine.
Bon, alors, je vais vous le faire. Dommage, parce que c'est toute la mécanique que je voulais vous décrire, mais c'est trop long. Donc, je voulais vous dire que vis-à-vis de l'humanité en tant que telle, puisqu'il s'agit de ça... Le fait que la mondialisation et les tendances sont les suivantes. D'abord, nous sommes à peu près à évaluer à peu près une population d'environ 7 milliards d'habitants, quoi qu'on la connaisse beaucoup moins bien qu'on le prétend. Mais ces 7 milliards d'habitants, cette population, elle... Cette population de... Nous sommes 7 milliards d'habitants. Oui, mais cette population, sa structure par âge se change profondément. Cette population, elle a plus changé entre 1920 et 1970 qu'entre 1970 et 2020. Et donc... En gros, pour donner cette population est devenue... Les 2/3 de cette population ne remplacent plus leur propre génération. les deux tiers de ces 7 milliards ne remplacent plus leur génération. C'est-à-dire, la pyramide commence à s'inverser. Et la pyramide mondiale, d'après les perspectives, sera inversée dans la de l'humanité, sera inversée dans les années, dans la décennie 30. Et le siècle, 21e siècle, c'est le siècle de l'inversion universelle des pyramides des âges. Donc d'une dynamique d'implosion. Implosion. C'est très important de comprendre ça. Or, aujourd'hui, la population, on ne vous le dit pas assez, elle est aux trois quarts dans des zones urbanisées. La population du monde entier. Des déserts secrets, c'est une implosion urbaine. La population implose dans les villes. Et par conséquent, il y a aussi l'effet de l'image universelle. Elle a le spectacle de la société moderne, entre guillemets, en permanence, y compris au fin fond de la brousse. Donc les normes et la perception des populations changent. Ainsi que la manière dont elles voient leur avenir, ce qui va dans le sens de l'implosion pour les femmes, etc. Ça va dans ce sens-là, parce qu'il est valorisant d'avoir moins d'enfants, etc. Vous remarquerez que les institutions internationales font la guerre à la maternité, font la guerre à la fécondité. Donc tout ça n'est pas innocent, tout ça converge. Voilà, je ne peux que difficilement conclure... mais je suis obligé d'écourter puisque malheureusement le temps est très
court. Non, mais si vous avez encore un petit argument sur monnaie pleine, alors, on peut déborder.
Sur la monnaie pleine.
Si c'est pour oui, c'est bon.
Alors, sur la monnaie pleine, je pense qu'effectivement, la question de la situation des jeunes femmes aujourd'hui, à cause du système financier, est très importante pour comprendre l'évolution implausible de la fécondité. Il faudrait parler des principes de la politique familiale, des trois piliers de la politique familiale, et du principe nécessaire. Le principe est le suivant, pour éviter aux populations développées de s'effondrer démographiquement, il faut compenser auprès des jeunes femmes, qui souvent appartiennent à la classe moyenne dans nos pays, le déclassement qu'elles subissent par le déclassement qu'elles subissent par une naissance nouvelle. Donc c'est ça le principe de la politique familiale. C'est un principe transversal. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'en France, le gouvernement a récemment complètement démantelé tout ce qui restait de la population. Du coup, d'ailleurs, la natalité française s'effondre. C'est mécanique. Donc la monnaie pleine est une par le droit de seigneurage redistribué auprès des citoyens est un moyen d'amortir et de permettre aux jeunes femmes des classes moyennes ou moyennes inférieures d'avoir un avenir, de se percevoir un avenir. Parce que la manière dont elles le perçoivent, ce que je n'ai pas pu dire autrement, c'est comme dans la pyramide de Pareto, on ne connaît pas les inégalités. Personne ici ne fréquente les populations les plus pauvres. Personne ici, ou très peu, ne fréquente les populations, les couches les plus riches. Mais en revanche, vous fréquentez les populations qui sont un peu plus pauvres que vous et un peu plus riches que vous. C'est comme ça que se perçoivent les inégalités. C'est pour ça que les courbes de Pareto sont si résistantes sur le plan de la forme à travers toutes les sociétés. Parce que dans toutes les sociétés, c'est comme ça que se sont mesurées les inégalités. Bon, je termine.
Bravo, merci beaucoup. Merci, mesdames.